à vous qui nous écoutez et bienvenue en première classe. C'est parti pour une heure ensemble, une heure de culture, d'actu et de cinéma avec Alice.
Bonjour.
Salut Alice, donc et toi qui nous parles de cinéma ?
Moi je vais parler aujourd'hui d'un film américain, Factotum, réalisé par Bent Hamer.
J'ai pas envie d'en savoir plus pour l'instant. Ah. Ensuite, nous avons aussi Panda.
Salut, salut. Aujourd'hui, on va parler du papa du punk français, mais c'est pas celui que vous croyez, je pense.
On verra bien, suspense. Mais en parlant de suspense, nous avons toujours Sylvain.
Salut tout le monde.
Sylvain qui a pris le parti de ne pas nous dire.
Oh, quel vilain. Je suis méchant. Non, je ne vous dirai pas de quoi je vais parler.
Pour la peine, comme j'aime pas les surprises, c'est toi qui vas commencer.
Eh ben, commençons. Je me suis perdu dans ce que l'on appelle le pays du grand ciel. Un endroit magique où l'on trouve des chiens partout. Sans laisse ni muselière, ils s'y baladent librement et jouent. Entouré de montagnes et de verdure tout proche de Kalispell, je m'en vais au marché paysan y acheter du bon miel. Là-bas, tout y est fait handmade, même les bijoux. Dans cette ville du poisson blanc, tu ne peux pas tout faire à pied. Du bar duquel tu ressors, parfois un peu saoul, pour aller au lac Flathead t'y baigner et même pêcher. Le lac Flathead, mais parlons-en, pardi, à moitié dans la réserve indienne des têtes plates. Même dans tes rêves les plus fous, ces paysages encore t'épatent. Alors que ces souvenirs dans ma mémoire sont gravés à vie, de la terrasse du cabanon, je joue une chanson. Au cabanon du bord du lac, j'y ai passé bien 3 jours. À jouer à l'indien avec mon arc, mes flèches et observer les aigles, assis dans l'eau sur cette bouée bière à la main avec cette région, je suis tombé en amour. Coupé de toute technologie, ici, il n'y a plus de règles. Puis, c'est au Glacier, le parc national, que nous avons mis les pieds. Dans une espèce de boui-boui, nous nous sommes achetés à manger. Puis, de toute civilisation, nous nous sommes coupés. Pour rejoindre le Bowman Lake et son paysage photoshopé. Ici, les biches viennent te voir à ta tente. Mais attention, camping sauvage aux ours affamés. Dans la voiture, tu cacheras ta bouffe, ton thé, ta menthe, pour que de la pâte de l'ours, tu ne sois pas griffé. Même si l'histoire ne se termine pas comme cela, j'en ai fini en criant « Oh Montana !»
En fait, j'aime bien quand tu nous fais des surprises comme ça, c'est très poétique.
Eh bien, merci.
Pour un prof de maths, tu es plutôt littéraire. Hein.
Littéraire, je sais pas, mais j'aime bien.
Voilà. Mais tu t'es mis à la drôle, ça y est.
Ça y est, tu as
décidé de t'y mettre enfin.
C'est fini.
Est-ce qu'on peut savoir qu'est-ce qui t'a inspiré cette chronique ?
Alors, qu'est-ce qui m'a inspiré ? Voilà, cet été, j'ai fait un road trip de 5 semaines. On a fait Toronto, on est parti au Québec, Trois-Rivières, le parc de la Mauricie, Québecville. On est descendu à Montréal, après on a fait New York, on est allé dans l'état du Montana et on est allé en Californie. Et mon gros coup de cœur du voyage, ça a été le Montana. Voilà, je voulais parler de cet état avec lequel vraiment voilà, je suis tombé en amour. Les paysages merveilleux, plus de technologie pendant une semaine, c'était génial. Cabanon au bord du lac à l'américaine, un truc de malade.
Vous avez vu des ours ?
Alors, on n'a pas vu les ours, on a campé, mais par contre, camping, certes sauvage, mais de partout, il y a marqué attention aux ours.
C'est ça qui est sauvage.
Oui, vous avez pas peur la nuit ?
Alors, justement, les techniques, c'est de mettre, ils te disent de mettre toute la bouffe, absolument tout ce qui est odorant dans les voitures. Comme ça, ils viennent pas t'emmerder en fait, quand tu es dans ta tente si tu n'as rien.
Les chaussures aussi ?
Il ne faut rien d'odorant dans la tente.
Okay. C'est bon à savoir.
Ce qui est... Alors, on était dans un coin où il y avait moins d'ours par rapport au... parce qu'on était allé au Glacier National Park. Mais par contre, voilà, on a une biche qui est venue à côté des tentes se balader. Normal, elle n'avait pas peur, tout va bien. Voilà, c'était vraiment sympa. Et saloon, genre le saloon. Enfin, on a fait plein de trucs.
Tu as bu beaucoup de whisky ?
Alors, j'ai pas bu trop de whisky, j'ai bu pas mal de bière. Et figure-toi qu'ils ont de très bonnes IPA et de très bonnes stouts et je me suis régalé.
À consommer avec modération.
Avec modération, bien entendu.
Merci de nous faire voyager, Sylvain.
Eh bien, de rien.
Et merci aussi, parce qu'en même temps, tu as fait une petite actu sortie au final.
C'est ça. J'ai testé pour vous le Montana.
J'ai testé pour vous le Montana.
C'est allé loin.
Voilà, reporter sans frontières. Hein,
d'ailleurs, vacances pas chères au Montana, il n'y a rien qui est cher. On était dans les coins soi-disant touristiques. Vraiment, c'était bien moins cher que tout le reste de notre voyage.
Je veux bien te croire. Alice, ouais. Qu'est-ce qui t'arrive? Alice, tu fais une tête bizarre. Alors, vous ne le voyez pas à la radio, mais Alice a une tête déprimée complètement.
Ouais, mais il m'a parlé de bière, là, et ça me fait penser qu'ils n'ont pas mis de vin à la cantine.
Mais Alice, c'est normal.
C'est salaud.
À chaque fois, tu bois tout le temps.
Ouais, mais aujourd'hui, c'était spécial parce que j'avais besoin de carburant pour ma chronique.
Oh, ça va, tu peux essayer de la faire sobre quand même, non?
Bon, ben, je vais essayer. Bon, ben, aujourd'hui, je vais vous parler d'un film américain sorti en 2005, Factotum de Bent Hamer. Alors, ce film est adapté d'un livre paru en 1975 d'un auteur sulfureux, Charles Bukowski, qui a aussi écrit Conte de la folie.
Daniel Bukowski.
Oh, ouais, oh, ça va, un cabana. Bon, Charles Bukowski, qui a aussi écrit Conte de la folie ordinaire et Journal d'un vieux dégueulasse.
On ça, sait. C'est marrant ça, Sylvain.
Ça, c'est dégueulasse.
Tu... Oh, vieux dégueulasse.
Chez vrai gamin, tu me dis, oh, le journal du dégueulasse. C'est bon, tu manges.
Alors, on sait que Factotum, le livre, est fortement tiré de l'histoire personnelle de Bukowski, auquel il fait porter ses propres traits à son personnage, Henri Chinaski. Alors, Henri Chinaski, c'est un poète, un ivrogne, vaguement rotomane et fauché comme les blés. L'histoire est basée sur tous les jobs pourris qu'il a enquillés pour survivre. Factotum, ça veut dire homme à tout faire, un serviteur qui assume des tâches multiples et variées. Donc le personnage, lucide sur l'absurdité de ses tafs, n'en a rien à foutre. Il arrive bourré au boulot, il se casse à la première occasion au bord du coin, il abandonne son poste pendant 3 jours parce qu'il baise, il se fait donc virer, il picole pour oublier, et il repart en quête d'un emploi.
Picole.
Voilà, c'est un servicieux.
Ou qu'il a baisé.
Non, mais à un moment, je vais demander des droits d'auteur parce que c'est un peu ma vie, ça, bordel.
Ah ouais. Alors, il repart en quête d'un emploi qui ne lui sert l'emploi qu'à avoir un toit et payer sa bibine.
Ouais, ah ouais, c'est ça, ouais.
Et en plus, il se gêne pas, je sais pas si tu le fais, toi, Panda, mais il se gêne pas pour le dire à ses employeurs.
Ah ouais, 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 tout pareil, ah ouais, ouais, c'est ça.
D'accord, c'est pour ça que t'as ton compte, hein. Alors, par ailleurs, il a plusieurs relations sexuelles, mais notamment avec Jan dans le livre.
C'est toi, ça
joué... Ah bon. Joué par Lily Taylor dans le film, qui est plus sexuelle que sentimentale, plutôt sordide, mais touchante. C'est ce que je pense en vous voyant.
Sordide, mais touchante.
Écrivain maudit.
Toi aussi, tu es sordide, je t'adore.
C'est mon style.
Je t'avais dit de prendre une douche ce matin.
Écrivain maudit, il envoie régulièrement ses nouvelles à des éditeurs qui ne le publient jamais, sauf une seule, une nouvelle intitulée « Mon âme gorgée de bière est plus triste que tous les sapins Noël crevés du monde ». Dans le film, le personnage d'Henri Chinaski est brillamment interprété par Matt Dillon, où chaque pas, chaque froncement de sourcils, chaque râle de son personnage, chaque vacillement sonne incroyablement juste et sincère. Ainsi, le réalisateur d'origine norvégienne Bent Hamer parvient, sans effet de manche ni tapinage, à reconstituer tout un petit monde, la micro-société des marginaux américains. Les femmes ne sont pas franchement putes, mais presque. Les hommes, pas tout à fait clodo, mais pas loin. Les personnages, dans l'ensemble, ne cherchent rien d'autre qu'eux-mêmes. Un fil à suivre, un ventre à nourrir, une libido à assouvir. Bref, une vie à mener. Je ne résiste pas à l'envie de finir en vous citant un passage du livre de Bukowski qui possède une certaine pensée philosophique sur le thème du travail. Comment diable un mec peut-il apprécier d'être réveillé à 6h30 par un réveil, de bondir de son lit, s'habiller, ingurgiter un petit déjeuner, chier, pisser, se brosser les dents et les cheveux, se bagarrer en bagnole pour arriver dans un endroit où il fait essentiellement du fric pour quelqu'un d'autre et on lui demande de dire merci pour la chance qu'il a?
Du coup, tu vois, on aurait pu enchaîner sur Kenny Arcana, Jean Pressé, en musique, parce que c'est tout à fait ça au niveau des paroles.
Jean Pressé bourré ?
Jean Pressé bourré, Jean Pressé qui va au travail.
Ah ouais, je connais, un Jean Pressé.
Mais non, mais c'est quand même de contexte, hein, parce que maintenant, on va s'écouter What Makes a Good Man de The Ivy, ça marche aussi.
Ouais.
Sur le plateau de première classe avec Géco. Tout de suite, on va enchaîner avec la chronique de Panda.
Salut, salut. Aujourd'hui, salut. Je vais faire ma petite chronique du jour. C'est une chronique musicale, bien sûr, jamais populaire, mais jamais élitiste non plus. Donc, comme promis, aujourd'hui, je vais vous parler du père, papa. Du papa du punk rock en France.
Le PPP.
Ah, le PPP.
Regardez ton demande de la salle, mais de qui vais-je parler ?
Bah un peu, ouais, quand même.
Eh bien, figurez-vous que je vais parler de Joe Dassin.
Ah oui.
Hein et là, l'assistance me regarde interloqué, voire narquois.
Le pire, c'est que moi, je le savais, mais que Sylvain, il est vraiment choqué.
Et oui, les amis, Joe Dassin, c'est le précurseur du punk en France. Oui, je vois. Vous vous demandez, mais est-ce que je suis fou ? Car pour vous, Joe Dassin, il a l'état indien, voire les Champs-Élysées. Mais Joe Dassin, ce n'est pas que ça. Et même dans des morceaux que vous connaissez, vous allez comprendre ma position sur ce chanteur. Prenons par exemple « Siffler sur la colline ». Ce morceau est plus punk que les connards de Californiens peroxydés que représente le fils à papa de lotissement. Écoutez ce rythme, mais limite « oi ».
Et ouais.
Près d'un laurier, elle gardait ses blanches brebis.
Ben voilà, vous voyez, toi, ça balance, toi. Et ça, ça date des années 68, mon coco. Ouais. Dis-toi qu'en France, à cette époque, c'est une musique hippie flower power. À côté, t'avais Dalida, Sheila, Claude François, les Bee Gees. Ouais, cette année-là, dans les charts, t'avais ça. Ouais. Alors, hein
mais
si c'est pas du punk,
hein.
Ça, pour l'époque.
On sait que t'es fou. On se demande pas si t'es fou, on sait que t'es fou.
Mais non, mais putain, c'est du punk, ça, bordel. Pareil, écoute cette rythmique, tout cas, de ce morceau. Vas-y, écoute la rythmique. Écoute.
Qui furent l'incarnation du mal et que ceci serve d'exemple à tous ceux que le diable écarte du droit chemin.
Ah! C'est vrai que
à la place de Fagnon, ils avaient des limes.
Mais là, ça fait psyché, ça fait pas punk.
C'est
psyché,
ça fait des fata, mais c'est putain, bien sûr que c'est punk. Tout ta.
Ouais, mais là, la musique, ça fait psyché un peu.
Mais non, mais putain, mais attends, mais si là, il n'y a pas un parfum de révolte, un gros bordel, bah ouais, mais 68, c'était quoi ? Bah c'était un gros pogo sur du Joe Dassin. Ouais, je sais, les médias vous l'ont caché, vous ont fait passer Joe Dassin pour romantique, gentil, genre, tu sais, le genre idéal ou quoi. Eh ben, pas du tout. Eh ben, regarde bien même les Champs-Élysées, hein, les Champs-Élysées. Bah, c'est l'histoire d'un gars qui drague une fille. Puis il l'emmène dans une tournante, dans une cave avec ses potes, les musicos. Tu croises avant les potes, moi je te le dis. Du déglingo, qu'est-ce qu'il y a ? C'est un déglingo le jeu, ok ? Allez, plein de drogue.
Il y a un déglingo.
Non, mais attends. Et plein de drogue en plus. Quand il te dit hier au soir deux inconnus et ce matin deux inconnus, encore tout étourdi pour la longue nuit. Eh ben il parle bien de GBH et de kétamine, la bordel. Eh ouais, le Joe Dassin, il t'a inventé la teuf dans le squat 30 ans avant que le premier boutonneux il ait eu l'idée de poser son premier caisson dans les bois, ok ?
La drogue est à consommer avec modération.
Pas du tout,
je crois.
Hein, alors tu vois, cher auditeur, grâce à moi, la prochaine fois que tu écouteras Nostalgie et qu'un morceau de Joe Dassin passera, eh ben, tu penseras à moi et tu auras une toute autre vision de ce gars. Allez, on écoute un morceau punchcore gothico-dépressif du maestro. Écoute les paroles.
Non, mais c'est vrai en plus.
Eh ouais, mais écoute les paroles et toi aussi, tu décèleras le talent caché de sa plume subversive.
Alors...
matin, il achetait son petit pain au chocolat. La boulangère lui souriait, il ne la regardait pas. Et pourtant, elle était belle. Les clients ne voyaient qu'elle. Autant que ses croissants. Et elle rêvait mélancolique le soir dans sa boutique à ce jeune homme distant. Il était mieux que voilà tout, mais elle ne le savait pas. Il vivait dans un monde flou où les nuages volaient pas. Acheta des lunettes à l'élu de son cœur. Dans l'odeur chaude des galettes, des baguettes et des babayes. en fête, un soir on est marié. Aïe, 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 aïe. Tout en blanc, qu'elle était belle. Les clients ne voyaient qu'elle. Et de leur union sont nés des tas de petits gosses, un peu comme papa. Remplissant les poches de petits pains au chocolat. D'une simple paire de lunettes pour approcher deux êtres et pour qu'ils soient heureux.
Alors Sylvain, convaincu ou toujours pas?
Ben écoute, je comprends mieux du coup pourquoi le groupe NoFX, qui est un groupe de punk américain, a repris aux Champs-Élysées.
Il y a énormément de groupes français qui aiment de punk et de Oi qui ont repris justement Joe Dassin parce que ça rentre mais nickel. C'est comme je te dis, siffler sur la colline qui fait la isa 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 et ça veut, tu peux faire Oi 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 Oi. Ouais, c'est pareil, c'est la même.
C'est ça que t'appelles les groupes de Oi, ceux qui font.
Oui,
oi, oi.
Ceux qui font. Ah ben la Oi, c'est du punk qui fait Oi 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 quoi. C'est doux hein.
Donc comment te dit Sylvain, ce n'est pas du punk, mais c'est les prémices.
Les prémices.
Oui, les prémices du punk. Ouais. C'est le papa du punk en France. J'ai jamais dit que c'était du punk dans le sens où effectivement il manque les guitares saturé, la grosse basse que tu veux et compagnie, mais je veux dire, voilà, c'est, d'un point de vue rythmique, on y est, là où c'était les yéyés et compagnie, là, tu avais vraiment un tout à tout à tout à tout à.
Ouais. N'empêche, bonne surprise.
Voilà.
Ouais, merci pour cette surprise.
Moi aussi, je me suis mis à la drogue.
On va tout de suite enchaîner.
À modération.
Bon, moi, je vais vous parler. Ouais, puisqu'on parle drogue, on parle sortie. Hein. Je vais parler. J'ai encore mieux. J'adore le rire de Sylvain, c'est génial. Je vais parler.
Tu sais que malgré tout, le SSA, ils peuvent nous écouter à un moment. Hein, en fait.
Bah, c'est le but, justement. Voilà. Tu voulais faire des chroniques avec de l'humour, on y est.
Ah ouais.
Donc, cette semaine.
C'est, limite un peu tout.
Sylvain, arrête, s'il te plaît, pardon. Donc, comme je disais.
Ouais, vas-y, dis.
Ah, c'est bon. Donc, je disais, donc, comme cette semaine. Et
là, tu veux pas de jingle, on s'en fout.
Si,
ça
si, justement, j'allais dire que c'est un petit peu chargé parce que les beaux jours arrivent et qu'on va être un petit peu de partout à la fois. Donc, il y a beaucoup de choses à noter. Donc, à vos agendas. Aujourd'hui, ce soir, jeudi 6, on se retrouve comme tous les jeudis au Perroquet Bleu pour les After Work Made in London, toujours de 18h à 23h et toujours Happy Hour jusqu'à 20h, suivi d'une soirée dansante. Vendredi 7 avril, rendez-vous au Vintage, corner pub du Laser Game de Plan de Campagne pour une soirée années 80-90, Happy Hours, 18 à 20h et soirée dansante. Samedi 8 avril, retrouvez au vieux village de Vitrolles la foire bio et nature de 10h à 16h. Loin de la vague bio-industrielle, ce salon vous rapprochera des producteurs locaux et vous fera découvrir les richesses de notre région. À 20h, concert de The Villains, au Duke à Marseille, entrée gratuite dès 18h30. Un groupe qui envoie vraiment du lourd et qu'on espère recevoir bientôt sur le plateau de GECO. Pardon. Le lieu et le concert valent vraiment le détour. Toujours samedi 8, les puristes métalleux le savent déjà, le groupe Hetz se reforme le temps d'un concert au Moulin de Marseille. Sylvain est trop content. Ils seront accompagnés d'Acmé et de Babylone Pression afin de vous replonger dans votre tendre et sauvage jeunesse.
The River of Babylone. Non, c'est pas ça.
Non, c'est pas ça, raté.
Pensez à la reformation de Plémo, tout ça.
Oui, bon, après, là, c'est vraiment une occasion particulière et c'est bien pour les puristes, comme je disais, justement. Ouais. Dimanche 9 avril, un peu de repos et de féerie qui va plaire à Sylvain avec une journée Harry Potter organisée par Astier Événements. Le chemin de traverse s'invite à Marseille. Artisans, expositions, spectacles, conférences, fabricants de baguettes magiques, jeux et animations. Une initiative et un programme qu'on a bien envie de découvrir. Mardi 11 avril, retrouvez au Molotov de Marseille le North East Ska Jazz Orchestra. 18 musiciens sur scène.
Ça, c'est très très bien à noter. Vraiment, pour les amateurs du genre, ça envoie.
Tout à fait, voilà. Pour éveiller votre début. Rien à rajouter, c'est ce que j'allais dire. Donc voilà, pour un bon début de semaine. Vendredi 14 avril, retrouvez la soirée Prohibition du Perroquet Bleu, musique des années 20 à nos jours. Beaucoup de monde attendu sur cette édition qui promet d'être très 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 festive. Costumes et plumes de rigueur. Ça
et
marche,
on fêtera l'anniversaire de Christelle, notre animatrice.
Ouais, mais ça, il fallait pas le dire. Mercredi 19 avril, c'est bientôt fini, promis, le Barcelona Gypsy Balkan Orchestra et le Massilia Gypsy Band, c'est pareil, c'est dans le même délire que le North East Ska Jazz Orchestra, toujours au Molotov, à Marseille, enfin dans le même délire festif.
Oui, festif, mais pas dans le même délire, mais c'est très bien aussi, très très bien.
Donc toujours au Molotov, toujours à Marseille, puisque c'est un lieu très festif, il faut y aller les copains, c'est bien, pour vous faire sauter jusqu'au plafond, donc c'est dans le même délire, sauter jusqu'au plafond, ça marche non ?
Pour vous faire sauter jusqu'au plafond, ouais. Au moins jusqu'aux toilettes. Puisqu'on parlait de...
Je vous en parle tôt. Hein. Mais c'est pour que vous vous rappelez bien cette date, parce qu'il ne faut pas rater. Quoi. Donc le 19 avril, Barcelona Gypsy Balkan Orchestra. Voilà pour ma sélection des deux prochaines semaines. Ça fait un petit paquet. J'espère que vous avez bien tout noté. N'hésitez pas à nous envoyer aussi vos infodates si vous êtes des groupes ou juste des passionnés de sorties et de culture, et à venir parler de vos projets. Ici, on est là pour parler de culture. On s'écoute tout de suite un morceau de Big Soul, Le Brio, pour se préparer à la soirée 80-90 de vendredi.
On chante la guitare, on tourne les tambours, moi j'accorde ma basse. 1, 2, 3, 4. Nous faisons un vacarme de tous les diables. Chantez juste ou chantez fort. Je m'en fiche, je me fais la rac à la musique classique. Edith Piaf. Ne regrette rien. Au les discothèques, monsieur, je suis allergique au jazz. Passe s'il vous plaît, sur le jukebox. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu fais le rythme. La cadence, la chanson alors, musique moderne, populaire, c'est un organe, à la mode. Alors enfants, foudrez-vous, branchez les guitares, chantez les guitares, je m'en fiche, je me fais le rack. Alors enfants, jouez. Branche les guitares, le brio.
Donc,
ça coupe. C'est comme
okay,
ça.
Ok, c'est
ouais.
Parfait. Oui, donc Sylvain a un sujet qui lui tient à cœur. Donc, c'est parti aujourd'hui pour
la question du jour.
C'est quoi ta question du jour, Sylvain?
Alors, ma question, c'est peut-on faire confiance aux études internationales et européennes quant à l'éducation et l'enseignement?
Alors,
je m'explique. Voilà, je m'explique.
Ouais, s'il te plaît, parce que moi, j'ai rien compris. Hein,
il va se faire question-réponse, je pense.
En fait, voilà, c'est pas mal un coup de gueule contre le programme PISA, qui est le programme PISA 3 fromages, exactement.
Qu'est-ce que PISA?
Attention, je risque de partir en fourrier.
C'est bientôt les vacances. Hein.
PISA, c'est exactement.
En plus,
PISA...
aujourd'hui, c'est la Saint-Marcelin.
Non, Panda, tu sais que les fourriers de Sylvain, ils sont pas arrêtables.
Donc, PISA. Donc, je suis en colère contre le programme PISA. PISA, qui est le programme international pour le suivi des acquis des élèves. Qui est un ensemble d'études menées par l'OCDE. L'OCDE, Organisation de coopération et de développement économique. Alors récemment, il est tombé deux études. Une qui disait que les élèves français étaient les plus mauvais en maths d'Europe, en maths et en sciences. Et une autre qui est une étude faite sur 72 pays et qui classe la France en 71e position. C'est une étude sur l'indisciplinarité des élèves. Donc en gros, nos enfants sont les plus...
L'indisciplinarité.
Oui, en gros... Okay.
L'indiscipline.
L'indiscipline. Oh putain, je suis fatigué, mon
Dieu. Non, mais il est prof de maths.
De maths.
Ouais, pas de français. Hein.
Ça va, il est prof.
Ouais. Je crois que je vais partir me cacher. L'indiscipline... ouais, en fait, nos enfants sont les plus indisciplinés.
Ouais, voilà.
On est 71e sur 72. Donc, je tire un petit peu un coup de gueule.
Marine te dirait que c'est normal, hein. Marine te dirait que c'est vrai.
Ah bah oui.
C'est... Bah oui, c'est ça le grand remplacement, ma petite.
C'est ça. Donc, je suis un petit peu en colère contre ces deux études. Est-ce que vous avez entendu parler un petit peu de...
Moi, j'en ai entendu vaguement parler. Il y a juste un truc qui m'interpelle. Tu dis que c'est une commande de l'OCDE.
Ouais.
OCDE, c'est un organisme économique, qui se mêle des histoires d'éducation. On en est là ?
On en est là.
Ah bah voilà.
Donc on a vite compris. Hein.
Ok. Donc ça va être des stats. Ouais. Les stats économiques par rapport à de l'enseignement. Enfin, je veux dire, c'est pas applicable, quoi. Je veux dire, on peut pas faire une bourse CAC 40 des meilleurs lycées de France sur des stats à la con comme
c'est,
ça. Quoi.
C'est voilà. Comme tu dis, c'est un peu compliqué. Déjà, il y a un problème de, on va dire de.
Comment ils ont fait en fait pour faire ces études là?
Les études pour par rapport aux mathématiques, aux français, tout ça. Enfin, français, non, ils ont pas fait d'études sur français parce que chaque
pays. Ah, toi non plus, a priori. Hein.
Mais merci. Et par exemple, pour les mathématiques, je vais parler du domaine que je connais le mieux, puisque je suis professeur de mathématiques. Ils donnent une espèce d'examen de contrôle à des élèves qui sera le même pour des élèves français, des élèves suédois, etc. etc. Faut savoir qu'il y a certains pays qui font du bachotage sur le type d'exercice PISA, qui sont un type d'exercice, j'en ai vu défiler. Qui sont assez incroyables. C'est pas du tout de la même façon dont on enseigne les maths en France. C'est complètement différent. Il y a des problèmes, on va dire, culturels. Tous les pays bachotent leurs élèves dans le secondaire.
Concrètement, c'est quoi une question type PISA?
Oh, une question type PISA, je sais pas, par exemple, ils vont te dire, ben voilà, on a la Terre. Voilà, on a la Terre, elle est belle, machin. Donc, t'as ta sphère, le volume de la Terre, c'est ça. Enfin, c'est des questions mathématiques... Comment dire, tourner sur...
Peut-être que tu peux plus nous parler de l'exemple de l'exercice français en France. Qu'est-ce que vous faites comme exercice
Ah mais nous, on n'en fait pas justement en France. On ne bachote pas les élèves sur des types d'exercices PISA. Les maths en France, par exemple, ça dépend des filières. En seconde, on va avoir un peu de tout. Par exemple, en terminale S, on va faire beaucoup de maths un peu plus théoriques, puis des maths un peu plus appliquées. En STI,
donc c'est de la logique. Il y a de la logique, j'ai des questions de logique.
Ah oui, il y a un peu de tout. Il y a de l'algèbre, de la géométrie, il y a un peu de tout. Tu vois, en STI, on va faire des trucs plutôt appliqués avec des problèmes techniques pour les techniciens. En ES, on va faire des problèmes plutôt économiques, des maths appliquées plutôt. Enfin, voilà, ce genre de trucs. Les élèves au collège et parfois dans le secondaire dans les autres pays sont bachotés à faire des exercices type PISA. PISA ne fait pas des maths, on va dire des maths théoriques pures, par exemple, je sais pas, faire du développement, de la factorisation, ce genre de, les identités remarquables qui ont saoulé beaucoup d'élèves du collège, tout ça, voilà. Wow, PISA, c'est pas ça. Des exercices de maths de ce type-là, ils en font pas du tout. En France, on en fait de moins en moins, mais on continue à en faire quand même. Moi, ce qui m'énerve un petit peu, c'est que comparer tous les pays sur le même type d'exercice, c'est pas bon, parce que culturellement parlant, on n'enseigne pas une matière de la même façon dans tous les pays.
En fait, tu dis aussi voilà, qu'ils n'ont pas le même modèle d'éducation.
Ils n'ont pas le même modèle
dans les différents pays. Est-ce que tu crois que ce classement, c'est aussi, comme c'est un organisme financier, enfin économique qui, oui. qui les classe, est-ce que tu crois que ça a aussi un impact du coup sur les financements dans l'éducation ? Est-ce que si t'es mal classé, t'as moins de financement si t'es mal classé ou
Non, pas du tout. Non, c'est juste, au contraire, là, à quoi ça sert ? On reçoit ces classements, on se dit aïe, on est mauvais en maths, il faut qu'on applique les pédagogies de nos voisins. Et quand vous voyez les pédagogies des voisins, parfois j'ai envie de me tirer les cheveux. Quoi,
c'est, c'est de l'uniformisation en fait.
Exactement.
C'est de la pure mondialisation ça.
Ouais, alors ça, pure, on est en plein dedans. Ouais. Voilà. C'est assez agaçant parce que quand tu regardes, c'était un reportage qui était passé il y a quelques mois en arrière à la télé où il parlait de l'étude sur les mathématiques. On te dit, voilà, les maths maintenant, il ne faut plus trop les enseigner comme avant. Il faut faire des petits problèmes, genre l'histoire des trois petits chats qui font ci, qui font ça. Au final, maintenant, les minots, on leur met un truc de mathématiques. Tout bête, comme on en fait de moins en moins parce qu'il faut s'uniformiser avec les pays voisins, ils savent plus le faire. Ils savent plus le faire. Et à un moment donné, je suis désolé, mais dans le supérieur, ils auront besoin de faire des maths un peu plus théoriques. Ils en auront besoin. Ne plus en faire, c'est pas une bonne chose. C'est pas parce que nos voisins le font qu'il faut le faire. Donc on rabaisse toujours la France. La France, on est mauvais en ci, on est mauvais en ça. Sur les élèves les plus indisciplinés, je prends l'exemple de la Suède où ils font des cours qui sont complètement différents des nôtres avec des classes à 15 élèves, deux profs par classe où les élèves peuvent se lever en plein cours, aller discuter avec le voisin, tout ça. C'est des trucs culturels. Ils acceptent ça. Ok, très bien. Moi, je suis prof là-bas, je deviens fou. Moi, mes élèves, s'ils ne sont pas assis sur leur chaise, je suis pas...
Qu'est-ce que tu penses de la Finlande alors qu'en Finlande, ils ont par exemple, ils ont un système sans examen, ils sont tous, et pourtant, ils sont tous trilingues, un bon niveau justement voilà,
je ne suis pas assez renseigné sur la Finlande, mais ce que je peux te dire c'est que souvent quand on nous vante les mérites d'un pays, ils sont super, voilà, ils sont géniaux, ils sont ci, ils sont là, c'est pas forcément vrai, parce que la différence un jour elle se fait où ? Dans le supérieur. Et dans le supérieur, pour avoir fait une école d'ingénieurs dans laquelle on a accueilli des élèves étrangers, pour avoir pas mal de collègues qui sont allés dans les écoles en Europe, voire aux États-Unis, au Canada ou au Chili, j'ai pas mal d'amis qui l'ont fait. Moi, je suis resté en France, mais j'ai pas mal d'amis qui l'ont fait. J'ai eu dans ma promo des Brésiliens, j'ai eu dans ma promo des Allemands, j'ai eu des Chinois, j'ai eu pas mal d'étudiants qui venaient d'autres pays. Mais en France, on n'est pas si mauvais que ça. Parce qu'à même niveau, on n'avait pas, enfin, à même niveau d'études, on n'avait pas justement le même niveau de connaissance. C'est pas vrai. En France, on n'est pas si mal que ça. Et les collègues qui partaient à l'étranger nous disaient tous, on fait l'année. Les doigts de pied en éventail, on va jamais en cours et on a nos examens.
Ouais, mais là, de toute façon, là, j'ai dit qu'on est mauvais en. Qu'on est indiscipliné.
Tout est lié. Donc, soi-disant, on est
indiscipliné. Et intelligent de naissance, je sais pas. Non, mais enfin, c'est pas forcément.
Non, mais là, je parlais des deux. Je parlais du niveau de maths des élèves et je parle sur les deux trucs. Mm-hmm. PISA, j'y fais pas confiance. C'est un peu mon coup de gueule contre PISA. Sur l'indiscipline, honnêtement, oui, on a des élèves indisciplinés, c'est vrai. Il y a des zones dans lesquelles c'est très difficile d'être professeur. Mais honnêtement, là par exemple, je prends ici, là où je suis, mes élèves, ils sont assis sur leur chaise. Quand ils font un peu trop les marioles, ils s'amusent même pas en fait. Ils s'amusent même pas.
Au final, tu dénonces qu'un organisme économique qui déjà essaye de mondialiser, uniformiser, mais même déjà l'économie, il s'en mêle pour faire au final de l'enseignement une mondialisation comme l'économie.
Exact.
Quoi.
Alors d'ailleurs, je vais vous parler de comment a été fait le dernier sur les élèves indisciplinés. Oui. Ce sont les élèves qui sont eux-mêmes... auto-évalué. C'est-à-dire qu'en fait, l'étude, c'est quoi ? C'est les élèves qui ont répondu à des questions du style « Est-ce que le professeur vous engueule souvent en classe ?»
Oui, donc c'est pas du tout fiable, en fait.
Mais non, pas du tout.
Pour mettre de l'eau dans ton moulin...
Dans mon moulin ?
Ouais, dans ton moulin. Il y a un truc... Enfin, mis à part ce genre de choses, il y a un truc... Alors, ok, c'est pas la vraie vie, c'est les vidéos YouTube, tu vois, mais tu peux quand même prendre le pool, on va dire, d'un pays grâce à ça. Tu regardes, oui, c'est vrai qu'en France, tu as des élèves qui font un peu carnage et compagnie. Mmh. Majoritairement, il n'y a pas le prof dans la salle quand ils font ça, alors qu'ailleurs, ils font vraiment du gros bordel. Même avec le prof, ils se font virer, ils s'en foutent, c'est rigolo. Voilà. Donc, est-ce que vraiment on est si mauvais que ça là-dessus aussi ? Je ne sais pas.
Non, voilà, il y a un truc. Le système français scolaire n'est pas parfait, n'est pas le meilleur. Je ne suis pas là pour dire qu'on est les meilleurs.
Il
y a des failles. Par contre, il faut arrêter de dire qu'on est les pires. C'est tout le temps ça, quand j'écoute la télé, quand je regarde les études qui sortent. La France, on est les pires, les pires.
Alors qu'il y a vraiment des sondages qui contredisent quand tu vois qu'on est quand même super bon en études supérieures.
Mais bien sûr,
voilà,
mais justement,
des grosses têtes qui sortent.
C'est
chez nous,
le truc, c'est ce que je disais. Leur sondage sur le secondaire et le primaire, parce qu'il y a aussi des sondages, enfin leurs études sur le secondaire et le primaire, de toute façon, elles sont contre carré coup en secondaire, parce que la différence, elle se fait dans le supérieur. La différence se fait dans le supérieur, à tous les niveaux.
C'est ça, de toute façon, après, dire qu'on est nul, pour moi, c'est comme regarder les infos sur TF1 ou JT, c'est, oui, c'est complètement voilà. Anxiogène. C'est vraiment pour voilà, sûr, dire aux gens, totalement. Ouais, on est nul. Non, c'est vraiment de l'info anxiogène, donc après, il faut vraiment le dénoncer.
Et ouais, ce qui est assez agaçant, c'est qu'après, il y a des associations de parents d'élèves qui s'emparent de ces nouvelles en disant, voilà, les professeurs, c'est la faute des professeurs, leur pédagogie n'est pas bonne, il faut faire de nouvelles pédagogies, machin. Alors, les nouvelles pédagogies, on nous bassine depuis des milliards d'années dessus, ça fait des années, il y a 80 ans déjà on parlait des nouvelles pédagogies, on parle des nouvelles pédagogies, ok, très bien, il y a des choses alors voilà, ils vont te parler de l'élève qui doit être plus actif que passif et tout, je ne parle pas pour les autres matières, je ne parle que pour ma matière, il y a des sujets sur lesquels ça s'y applique très bien, il y a des sujets sur lesquels ça ne s'y applique
pas du
tout. Non,
moi je veux vraiment rebondir là-dessus avec toi, dans le système scolaire en général, Sylvain, parce que j'ai encore entendu, on est dans un lycée ici au studio radio, j'ai encore entendu un professeur de BTS nous dire la semaine dernière on en a marre parce que l'éducation nationale nous demande de ne pas enseigner des métiers alors qu'on est en BTS, de ne pas enseigner des métiers aux élèves parce que d'ici qu'ils finissent leurs études, on ne sait pas quel métier il y aura ou pas, si ce seront les mêmes métiers.
Alors qu'ils soient en BTS.
Voilà, parce qu'en gros, c'est comme ça. Ça, à tous les niveaux, ça marche. Toi, tu as l'exemple du lycée, moi, je te donne du BTS. Depuis l'école primaire, c'est pareil. Le fait de dénigrer le système, d'être anxiogène, c'est juste une façon d'abrutir les gens et de leur apprendre. Dès leur plus jeune enfance, et ben, être bête et discipliné, apprendre par cœur bêtement.
Et malléable surtout.
Malléable, bien sûr, mais ça va de pair. Voilà.
Alors le coup des
BTS. Ne plus travailler la logique.
Puis surtout ne pas être qualifié dans quelque chose et donc ne pas demander une place de technicien qualifié et donc avec la paye qui va avec.
Alors le BTS, ça forme quand même des techniciens. Alors pour le coup, ils disent que ça ne forme pas vraiment un métier. Je ne suis pas prof en BTS, je ne peux pas parler, mais je sais que.
J'ai fait un BTS, je peux t'en parler. Déjà à l'époque, et c'était il y a plus de 10 ans de ça. Déjà à l'époque, c'était fait justement plus pour aller vers une licence que vraiment aller travailler.
C'est pour continuer les études derrière. Ouais, c'est vrai que c'est vachement utilisé pour ça.
Alors que
c'est
le BTS, normalement, c'est un brevet de technicien supérieur.
Après, c'est bien que les élèves de BTS aient aussi la chance de pouvoir continuer
derrière.
Oui,
mais tu l'as dit, la chance. Mais 9 fois sur 10, tu vas en BTS pour apprendre un métier.
Bien sûr. Ouais, mais il faut enseigner la logique d'un métier ou d'un travail. Là, c'est juste apprendre par cœur. Voilà, apprenez par cœur vos cours et répétez bêtement. Le fait est qu'à un moment, on veut créer des moutons. On en revient toujours au même point. On veut créer des moutons qui ne réfléchissent pas.
Je ne pense pas qu'on a vocation à créer des moutons non plus. Alors, même si elle est un peu limitée, on a une certaine liberté pédagogique. Après, chaque prof est devant sa classe. Chaque prof a sa responsabilité. Moi, quand j'enseigne les maths, j'ai pas l'impression d'enseigner à des moutons.
D'autant plus qu'on
nous bassine quand même pas mal avec la différenciation en classe. Tout. En fait, il faut savoir que le métier de professeur est de plus en plus difficile. Dans le sens où on accepte de plus en plus d'élèves qui n'ont pas forcément, c'est malheureux à dire, leur place dans le général, en seconde. C'est pas méchant.
Et pourtant, le général, finalement, c'est pas ce qui forme.
Bon.
Ouais. Finalement, le général, au final, quand on parle dans les études techniques, comme tu dis, c'est très dénigré, alors qu'au final, les études professionnelles sont beaucoup plus qualifiantes maintenant que même partir en fac générale. Généralement, on fait quand même un BTS. La théorie ne sert pas comme avant. C'est ce que je veux dire.
Mais bon, on n'a pas entendu Alice sur ce sujet quand même. Hein.
Mais bon, de toute façon,
moi j'étais à la fac, alors bon.
On parle pas de ça.
Voilà ce que ça fait. On va conclure là-dessus. Hein. Merci beaucoup d'avoir soulevé ce problème, Sylvain.
De rien.
Ah, c'était intéressant, oui, vraiment, pour une fois.
Super, je dis que de la merde.
Non, mais pour une fois qu'un prof est intéressant, c'est bien.
Ah, cool, bon, ça va. Alors je prends le compliment.
Merci pour votre objectivité. Merci à Panda pour son objectivité. Merci à Alice d'être toujours aussi folle. Merci à Sylvain pour ses surprises.
Merci à vous.
Merci de nous écouter. Au revoir.
Et stay punk et écoutez Joe Dassin, bordel de merde.
On va se quitter sur du Kovacs, My Love.
Babe, don't try to call. My heart is ticking and a shock.
of champagne. If the spell won't kill you, your ego dies. My-